La liberté de l'information ne s'use que si on ne s'en sert pas. Merci beaucoup, 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 Daniel, pour ton émission sur Winex. Et effectivement, un auditeur le disait il n'y a pas longtemps, on est beaucoup moins idiots après qu'avant. Salut et bon courage à tous.
Je voulais juste dire que j'espère que la révolution va bientôt se produire avec toutes ces horribles choses du libéralisme sauvage. Juste pour te dire que j'appelle de la Suisse et puis qu'on avait une fabrique d'électroménager qui se nomme Zilis, détenue par un groupe qui fait 20% de bénéfices et qui délocalise 60 personnes au chômage. Ça se passe partout comme ça. Et la conscience, quoi, la conscience des ouvriers, des employés, pour que ces choses cessent et que, bon, je veux dire, on va dans le mur, on le sait. Merci beaucoup Daniel, c'était Pierre de Lausanne. Bye bye.
Bravo et merci pour ta remarquable émission sur Moulinex. Enfin, un média qui perd cette opacité volontairement entretenue sur la mondialisation. Autrement dit, le capitalisme. Oui, la mondialisation est organisée et gérée par les superstructures politiques mises en place par les multinationales qui veulent gérer la planète à leur profit et à ceux de leurs actionnaires. Ces superstructures sont le Front Monétaire International, la Banque Mondiale, l'Organisation Mondiale du Commerce et pour l'Europe, le traité de Maastricht et le pacte de stabilité. Aujourd'hui, ils exigent au seul profit de leurs mandants, c'est-à-dire leurs actionnaires baptisés investisseurs, un taux de rendement de leur investissement de 15 à 20%. Pourquoi faire? Essentiellement, pour accroître leur profit et leur domination. Au diable les travailleurs qui doivent être corvéables et jetables au gré de leurs choix politiques, licenciements, fermeture d'usine, délocalisation. Au diable les 1 milliard d'êtres humains qui vivent avec moins d'un dollar par jour et meurent par manque de soins et de médicaments. Oui, ce que nous vivons, c'est le fonctionnement de l'état pur et dur du système capitaliste dont Marx, Engels, Lénine en ont remarquablement analysé et expliqué le fonctionnement. Oui, un autre monde est possible. Il faut le construire avec toutes les forces politiques anticapitalistes qui luttent pour la paix, la liberté et le progrès social. Merci Daniel et salut.
Ben, moi je voulais juste dire, vos informations sur France Inter sont ni meilleures ni moins bien que ce qu'on peut voir à la télé. On n'apprend rien de plus. Et votre émission, bah, elle est de plus en plus chiante, je trouve. Ça tourne en rond. Alors je me dis, est-ce que je vieillis ou est-ce que vous devenez chiant? Voilà. C'était Valérie, Charente-Maritime. À bientôt.
Petit problème d'arithmétique. On annonce dans la presse qu'il y a 27 000 chômeurs en moins au mois de janvier. Or, il y en a eu 180 000 qui ont été éliminés en décembre. Donc, 180 000 moins 27 000 égale plus 153 000. 153 000 en plus, messieurs, dames. Et que fait-on? Pas rien.
Mais si on fait quelque chose, la preuve, aujourd'hui, premier lundi du mois avec le Monde Diplomatique, avec le numéro du Monde Diplomatique de ce mois, avec Ignacio Ramonet, Dominique Vidal, Serge Halimi, Maurice Lemoine et Bernard Cassène. On se retrouve aujourd'hui comme chaque mois depuis bien longtemps. Et puis tout au long de cette émission, on retrouvera des extraits des soirées Liberté de circulation organisée par les Têtes Raides tous les lundis de ce mois dernier avec des associations, avec des groupes. Et qu'on retrouve ce soir, à 1er mars à 19h, au Zénith de Paris, avis de K.O. Social, il y aura Benabar, Fabulous Troubadour, Patrice Caratini, excellent Patrice Caratini, Dominica, enfin tout un tas de musicos et de chanteurs et toute une palanquée d'associations depuis AC jusqu'à syndicat de la magistrature, en passant par Droit Devant, Réseau Sortir du Nucléaire, Confédération Paysanne, etc. C'est donc à 19h tout à l'heure à Paris au Zénith et ça coûte 10 euros l'entrée. Voilà. Et ben, alors des messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis avec des échos sonores de ce qui se passe certaines soirées.
Merci Daniel. Je suis Thierry Larocque. J'ai regardé les victoires qui n'en sont pas, mais qui méritent que le texte lu par Valérie Lagrange soit rediffusée en boucle à toutes vos émissions, car elle représente l'honneur de l'intelligence des chercheurs et des artistes, et je voudrais que l'intelligence et le savoir-faire ne soient pas mis en bourse. Merci.
J'ai une petite chose à vous dire.
Pas de problème.
J'en ai pas pour longtemps. Le profit, ce monstre insensible et cruel, est devenu la valeur phare sur notre planète. Il est en train de faire régresser notre dignité d'êtres humains vers la barbarie. Il génère de plus en plus de détresse, de misère, d'injustice et de haine à travers le monde, au profit d'une minorité qui, elle, s'enrichit outrageusement chaque jour. On préfère nous laisser croire que le problème crucial aujourd'hui en France est de porter le voile ou non à l'école, alors que chaque jour, de nouveaux plans sociaux qu'on a eu le cynisme absolu de qualifier de dégraissage sont vécus à tort comme une fatalité par ceux qui n'ont pas à les subir. Et 1 million d'enfants, rien qu'en France, vivent sous le seuil de la pauvreté. Il semblerait que nos dirigeants aient oublié que le désespoir et la frustration des gens ne peuvent être contenus indéfiniment par la répression ou l'indifférence. Le mécontentement profond est comme l'eau. On peut le contenir par des barrages artificiels. Mais le jour où la pression devient trop forte, les barrages cèdent, même les plus puissants. Quand on ne respecte pas l'humain, l'histoire a toujours montré qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vous respecte. Je nous en supplie, réveillons-nous. Ceci est un cri du cœur et rien d'autre.
C'est un drôle de contexte pour recevoir une victoire. Goodbye Lénine parle de la chute d'un mur. Ce soir, je pense à celui auquel se sont heurtés les enseignants, chercheurs, juristes et intermittents, qui voulait dialoguer avec le gouvernement. Contre ce mur d'incompréhension, retrouvons-nous lundi prochain, ici même au Zénith, pour un concert militant. Pour que la France ne devienne pas un pays sans liberté, sans égalité, sans fraternité. Merci. Bonsoir.
Yann Thiassen, félicitations.
À l'aube d'un monde millénaire, nous ne protestons plus parce que nous sommes beaucoup plus prudents et nous sommes moins attentifs parce que nous ne protestons plus. Cette phrase est de Cesare Battisti, menacé d'extradition, et que l'association Mémoire à Vif vous invite à venir soutenir en participant à la projection débat du film de Pierre-André Sauvageau, Cesare Battisti, Résistance, qui aura lieu mardi 2 mars à 20h30 à la mairie d'Emoutiers. Soyez nombreux à nous rejoindre pour exiger le respect du droit d'asile et des engagements pris.
Bonjour Monsieur Mermet, bonjour France Inter. Un petit mot pour vous dire que Monsieur Sarkozy peaufine actuellement une nouvelle loi. C'est une loi dans laquelle il envisage d'assimiler les fonctions des éducateurs de rue à des fonctions de flics indicateurs. Voilà, on n'est pas très loin de l'idée d'une forme de délation. Alors nous sommes un service, nous sommes éducateurs d'un service de prévention spécialisé de Caen, et notre mission s'appuie parfaitement, complètement sur la confiance acquise auprès des jeunes, et qui serait totalement irrécupérée et remise en cause par cette loi. Voilà, donc je voulais signaler qu'il y a un meeting débat organisé le mardi 9 mars à 20h30 à l'IFTS d'Hérouville-Saint-Clair. Bref, on est des éducateurs, mais on n'est pas des indicateurs. Merci, au revoir.
Dans Le Monde du 28 février dernier, là, il y avait un article qui relatait la visite de Strauss-Kahn à Londres pour assister à une réunion des sociaux-démocrates allemands puis anglais, quoi. Bon. Alors il y avait Jean-Marie Bockel, le fameux maire de Mulhouse, la fameuse maire gauchiste, hein, entre guillemets, de Mulhouse. Et puis bon, bah, dans cet article, on en apprend de belles, que les sociaux-démocrates, certains sociaux-démocrates allemands regrettaient qu'ils aient pas eu une Thatcher pour faire le sale boulot, Strauss-Kahn, ma foi, il a dit qu'il fallait, qu'il disait dans cet article qu'il allait falloir être dur, quoi, créer une sécurité sociale professionnelle, je vois pas ce que c'est. En tout cas de cause, eh ben, si aux prochaines élections présidentielles, on a le choix entre Sarkozy et Strauss-Kahn, eh ben, on n'est pas dans la merde. Parce qu'entre, entre la peste et puis le choléra, moi, je peux pas choisir.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Boulanger, 19 ans, militant vert depuis 2 ans sur Toulouse. Et j'appelle parce que je suis très déçu, en fait. Les verts passent souvent pour des personnes irresponsables, alors que on bosse beaucoup, par exemple avec le syndicat SMG de la médecine générale. Les abeilles, par exemple, aussi. On a manifesté, fait des tracts, on a passé des temps, des réunions avec des gens, on a fait plein de boulot. Au ministère de l'Agriculture, il y avait le secrétaire général Gilles Lemaire, il y avait les 2 députés verts de Paris. Et pourtant, on a parlé sur France 2 que d'écologistes et de José Bové. Pendant ce temps, Arlette Chabot invite Monsieur De Villiers, un arriviste, on ne sait pas d'où il vient, j'ai jamais entendu parler, un certain Monsieur Guémard au gouvernement. Donc un super discours majoritaire, mais on n'existe pas les Verts. Sauf quand on se chamaille, et ben alors là, il y a tout le monde. Je suis vraiment très déçu parce que moi, vu de l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a une terrible injustice et je ne sais pas à qui dire mon désarroi. Voilà, au revoir.
Voilà, j'ai découvert qu'un petit compte pirate du net héberge toutes tes émissions sur son site. Alors voilà, ben ça y est, je passe tout mon temps libre à t'écouter. C'est grave, quoi. Faut dire que je bosse, moi, entre 17h et 18h. Alors, c'est silence radio hein, pour moi, à ce temps-là. Enfin, maintenant, je me fais des menus dégustation. Alors, une petite pizza hot avec mon petit moulinex, un petit coton indien à la sauce carbide. Je finis par un petit café d'Éthiopie. C'est sympa. Enfin, moi, je vais finir par grossir. Hein. Alors, je voulais tous vous embrasser. Gilles, Claire, Thierry, Antoine et les autres. Et allez, à bientôt. C'était Marie à Lyon.
Au revoir. Salut Marie, c'est Daniel Mermel. Là-bas, si j'y suis, avec le monde diplomatique.
Flight number 2, arriving from...
La guerre sans merci menée par l'État, sa police, ses complices, ses médias contre les plus démunis et les plus fragiles nous oblige à repenser à de nouvelles formes de lutte et de résistance. La menace porte sur nos vies mêmes, nos capacités à faire et défaire des mondes. Elle nous concerne tous, de là où nous nous tenons, dans la rue, au travail, à la maison, à l'école. Cette menace est concrète. Aujourd'hui, nous avons peur que ce qu'il reste de commun à tous soit justement la peur. Une peur qui isole. Ce que nous avons partagé pendant des mois de lutte ne se mesure pas en défaite ou victoire. Les actions sont en la mesure de notre colère et ne connaîtront pas de pause. Nous vous invitons à faire de même partout où il n'est plus acceptable d'accepter. Nous appelons le plus grand nombre à nous rejoindre et à organiser des révoltes joyeuses ou pas, afin de faire plier les décideurs. Faire entendre nos voix et notre volonté insoumise.
Voilà, on va les retrouver tout au cours de cette émission avec le monde diplomatique, ces associations, ces musiciens qui, chaque lundi, au Bataclan, se sont retrouvés autour des têtes raides et que vous retrouverez ce soir si vous allez au Zénith à Paris à 19h. On est avec le monde diplomatique jusqu'à 18h sur France Inter, la basse édition. Le monde diplomatique du mois de mars. Ça commence avec l'antiterrorisme. Et selon vous, Ignacio Ramonet, l'antiterrorisme, c'est très bien, mais ça menace la démocratie, il faut bien dire les choses.
Le terrorisme a bon dos, enfin pour le dire en un mot. Je pense que au nom du combat contre le terrorisme, il y a un certain nombre d'États qui aujourd'hui se retenaient de prendre un certain nombre de mesures de type sécuritaire et qui maintenant, bien entendu, voient que la noble cause de la lutte contre le terrorisme, eh bien, justifie et les autorise à prendre ces mesures. Alors, Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est clair que au monde diplomatique en particulier, nous avons toujours dénoncé le terrorisme, bien sûr. Hein, en particulier, cette forme du terrorisme aveugle qui s'en prend aux innocents, aux non-combattants, etc. Et on le réaffirme ici très nettement. Bien sûr, le terrorisme est une, disons, une méthode de lutte que même les causes les plus justes ne justifient pas. De la même manière aussi, on pense que le terrorisme d'État est à condamner, en particulier les gouvernements qui le pratiquent. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir des attentats du 11 septembre, et à partir des décisions qui ont été prises aux États-Unis, notamment le Patriot Act, qui est quand même, je veux dire, une sorte de transgression d'un certain nombre de principes démocratiques, eh bien, on a vu d'autres pays, des pays européens, et je cite les mesures qui ont été prises en Grande-Bretagne, les mesures qui ont été prises, bien sûr, en France. On a adopté récemment la loi Perben 2. Mais ce qui est plus intéressant, comme un certain nombre de rapports l'ont montré, notamment le rapport du PEN international, c'est qu'il y a, à travers le monde, 35 États, parmi lesquels les États les plus autoritaires, la Colombie, l'Indonésie, la Birmanie, l'Ouzbékistan, le Pakistan, qui, s'inspirant explicitement des États-Unis, par exemple, il y a une déclaration du ministre de l'Intérieur du Zimbabwe qui dit: nous sommes totalement alignés sur la position des États-Unis lorsque les États-Unis considèrent que tout complice d'un terroriste est un terroriste. Toute personne qui aide d'une manière directe ou indirecte un terroriste est un terroriste. Nous faisons notre, en quelque sorte, cette déclaration, et tout ça en réalité pour s'en prendre à des personnes qui, tout simplement, essaient de s'opposer à des dictatures. Eh bien, c'est un peu cette atmosphère-là antiterroriste qui s'est créée et qui a naturalisé aujourd'hui la répression. Je termine en disant que finalement, aujourd'hui, dans cette atmosphère, l'état d'exception est devenu une norme. Ce qui, il y a quelques années, nous aurait paru comme étant des mesures prises dans un cadre tout à fait exceptionnel, aujourd'hui c'est la norme. Et d'autre part, ce sont des systèmes, ce sont pourtant des démocraties, qui finissent par placer, et insensiblement, on le voit maintenant et on s'en aperçoit pas, la police au cœur du système démocratique. C'est là où il y a une perversion tout à fait particulière, et on peut se demander si finalement ce n'est pas une voie qui conduit au suicide des démocraties.
Content de vous voir. Moi, je participe à Assez, Agir Ensemble contre le chômage. C'est un mouvement qui a été créé il y a 10 ans maintenant pour lutter contre le chômage et la précarité. Et comme vous le savez, il y a de quoi faire, quoi. Le On a faim, vous avez dû entendre, les médias en ont parlé, les restaurants du cœur, ils explosent en ce moment. Le surendettement, c'est pareil, c'est un produit en augmentation. Et le On a faim, pour nous, ça résonne aussi sur le On a faim de droit. Parce que là, il y a un paquet de chômeurs qui se sont fait bouffer leurs droits, il y en a peut-être dans la salle. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut se battre pour obtenir des droits nouveaux. D'abord, obtenir le fait qu'ils arrêtent de nous en bouffer, ensuite, obtenir des nouveaux. Et sur les nouveaux, la question qui nous semble centrale, c'est la question du revenu. Et là-dessus, parenthèse, petit rappel, le RMI en France, malgré tout, il est toujours interdit aux moins de 25 ans. Et sur les droits pour lesquels on se bat, c'est donc le fait que personne en France ne puisse vivre avec un revenu inférieur au SMIC, que toutes les formes de chômage et de précarité soient indemnisées, et donc personne ne se retrouve en situation de misère ou de précarité.
Je m'appelle Saint-Paré, je te le dis, c'est moi qui lève et couche le soleil, qui fait et défait les rois.
Je m'appelle Jésus Christ, je circule en tout lieu. Ma maman c'était Marie, mon papa c'est le bon Dieu.
Je suis le début du monde, je vivrai jusqu'à sa fin. Je couche avec la Joconde, je suis pote avec Jospin.
Si tu mets pas de capote quand tu couches avec Jospin, au moins garde la culotte, il ne pourra pas aller très loin.
Dès le début, t'attaques bas, ce que tu dis n'est pas très beau. Heureusement que je suis là pour relever le niveau.
Ma garde barrière pour les passages à niveau. Je suis qu'un simple trouvère qui s'amuse avec les mots.
Tes jeux de mots sont sensibles, que c'est la forme sans le fond. Le sommeil est le seul truc qu'il y a.
Cette vanne, c'est notoire, je l'ai sorti hier matin.
Et ma mémoire va très loin, écoute ça, je me souviens de quand j'étais il y a longtemps dans le ventre de ma maman.
Je fais plus fort, je me souviens de quand j'étais chez mon daron, que je me disais putain, s'il se branle, je suis marron.
S'il avait pu deviner ce que t'allais devenir, je suis sûr qu'il l'aurait fait, tu serais pas là à mentir.
S'il n'avait fait qu'un dommage, alors le monde aurait perdu un des plus grands personnages qu'il n'ait jamais connu.
Des mégalos récupérants, mais faudrait me rapetisser, ou que tu grandisses encore si tu tiens à mégaler.
Des galets, c'est des cailloux qui ne valent pas grand chose. Moi, chaque mot de ma prose est en soi un vrai bijou.
Cailloux, bijoux, et vos genoux, tu peux en faire tes joujoux, mais ne me cherche pas les bouts ou je t'envoie dans les choux.
Fais gaffe à toi, un jeu tu ne racontes que tes c'est. Je vais te broder le nez, on débroté à coups de pied.
Ne me parle pas d'épée, je suis la plus fine lame concertée, le métromane qui grille dans le quartier.
Métromane, qu'est-ce à quoi? Je connais les pétomanes, totomanes, tefromanes, gâteaux-manes, infomanes, non-formanes, totomanes, aucun-manes. Pas les manes du métro.
Nous en fais pas tout d'un plat, si tu comprends pas mes mots, va voir la rousse qui est là, qu'elle te prête son dico.
Nous sommes ici au Bataclan, devant des gens intelligents, ne nous sors pas des jeux de mots, tirés de l'almanach Vermont.
Alors, une question. Qui a dit « Ceux qui gagnent beaucoup d'argent le méritent, ils apportent à la société une valeur supérieure à ceux qui gagnent moins ?»
Bernard Cassène, vous avez 30 secondes.
Je vais lire l'article de Martine Goulard. Je crois qu'il y a la réponse dedans. C'est Monsieur Francis Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Il le dit en exprimant sans aucun doute la pensée de ses collègues du gouvernement et de ceux qui le soutiennent. Ce qui est en effet frappant dans le papier de Martine Goulard, intitulé « État d'urgence sociale », c'est la formidable cohérence des politiques menées par les différents ministres du gouvernement Raffarin. Certains opposants ou présumés tels on voulait donner l'impression que ce gouvernement ne savait pas où il allait, etc. Si, il sait très très bien où il va, et il y va sans nuance. Il va où? Sur des chantiers de démolition sociale, par un laminage, une destruction systématique de tout ce qui reste de protection sociale contre la précarité, et ceci dans tous les domaines. L'enseignement, la recherche, les intermittents du spectacle, le droit du travail, enfin, il n'y a pas un secteur qui échappe à cette fureur destructrice qui se situe dans le droit fil des recommandations des organismes internationaux, et en particulier d'un organisme dont nous ne parlons peut-être pas encore assez, qui s'appelle l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui est basé à Paris, au château de la Muette, qui est discret mais pas muet néanmoins, et qui a donné encore sort de la feuille de route de tous les gouvernements occidentaux, et ceci depuis plus de 20 ans. L'OCDE dit la même chose que Monsieur Maire, et les gouvernements européens et américains ne font qu'appliquer les recettes mises au point chez ce commissaire politique de la mondialisation libérale qu'est l'OCDE. Je rappelle qu'il s'agit d'un organisme intergouvernemental, donc au siège des représentants de la France. Et des représentants de la France, une France qui paye quelques 110 ou 120 millions de francs par an pour une officine qui est en fait une officine anti-État, anti-société, exclusivement au service des intérêts privés. Alors la liste des ravages du gouvernement Raffarin, je pense que les auditeurs, chacun, là où il est, la vit individuellement. En particulier, je pense aux régions rurales, où on est en train de supprimer les bureaux de poste, qui étaient le seul endroit, et le facteur était souvent la seule personne que pouvaient voir des personnes âgées, des gens isolés. Donc on a derrière la bonhomie apparente du Premier ministre, on a un gouvernement de fer, un véritable gouvernement de fer, et qui jusqu'à présent ne rencontre pas une opposition à la mesure de son offensive, il faut bien le reconnaître.
Serge Halimi.
Je pense que l'une des raisons qui explique qu'il ne rencontre pas une opposition à la mesure de son offensive, c'est que certains grands partis d'opposition sont alliés de cœur avec les gouvernements allemands et britanniques, qui mène rigoureusement la même politique, à tel point que Jean-Pierre Raffarin a pu dire récemment, quand j'entends Gerhard Schröder en Allemagne me parler de son projet de mettre fin aux indemnités des chômeurs de plus d'un an, et Tony Blair me parler de la privatisation des hôpitaux, je ne me sens pas le moins à gauche des trois. Donc il y a effectivement cette espèce de double jeu qui est pratiqué par certains qui sont rigoureusement opposés aux politiques de Raffarin en France et qui les soutiennent lorsqu'elles sont conduites ailleurs au Royaume-Uni et en Allemagne. Et je crois que cette ambiguïté est aussi constitutive d'une certaine difficulté politique à réagir. Ou bien on refuse ces politiques dans leur ensemble et on en identifie les responsables, effectivement en comprenant dans la liste l'OCDE, qui joue un rôle moteur dans cette affaire, puisque c'est un peu le cerveau de ce qui se fait en Europe, et que les recommandations qu'il serinent depuis une dizaine d'années ont presque toutes été suivies. Ça a pris plus ou moins de temps, mais elles ont presque toutes été suivies. Ou bien on se livre à une critique qui est une critique uniquement politicienne, qui ne vise que le gouvernement Raffarin, mais pas le fond de ses politiques.
Dominique Vidal.
C'est toujours intéressant de suivre ce qui se raconte ici ou là, ce qu'on appelle les idées reçues. Et parmi les idées reçues que l'on entend le plus souvent, il y a celle selon laquelle le gouvernement Raffarin serait un gouvernement incapable qui ne sait pas où il va. Je crois que c'est exactement le contraire. Ce gouvernement, même si parfois son expression peut sembler ridicule, voire même faire honte, ce gouvernement est sans doute le plus cohérent que nous ayons connu depuis très longtemps, et en tout cas le plus réactionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il applique un double programme, comme l'a dit Bernard, le programme de l'OCDE, et ça je crois l'article de Martine Bullard le montre très bien, et puis, et ce ne sont pas deux programmes très contradictoires, le programme du MEDEF. Nous avons un gouvernement aux ordres du MEDEF dans le détail. Et je crois, on ne va pas raconter l'article de Martine, il faut le lire, mais l'intérêt de cet article, c'est qu'il montre bien toutes les articulations entre les différentes mesures prises depuis maintenant plus de 2 ans et qui constituent une remise en cause systématique de toutes les avancées qui pouvaient exister sur le terrain économique et social et culturel depuis très longtemps. Alors, il faut dire aussi que ce gouvernement n'a pas tout le mérite de cette cohérence. Il a aussi la chance d'avoir devant lui un boulevard, boulevard ouvert par l'absence de forces alternatives s'exprimant réellement sur le terrain politique, et, il faut le dire aussi, par les difficultés qu'a enregistré le mouvement social, aussi bien dans la lutte contre les retraites que, par exemple, le mouvement des enseignants. Donc, pour l'instant, c'est vrai, Raffarin joue sur du velours et il faut espérer que les élections qui viennent seront quand même un moment d'expression suffisante de la population française pour mettre un coup d'arrêt ou en tout cas donner un coup de frein à cette politique antisociale.
Ça fait un peu vœu pieux.
Il y a des élections, on est des citoyens dans un pays où heureusement on a le droit de vote. Il serait temps, je trouve, de s'en servir pour faire bouger la politique gouvernementale. Ça compte, hein. Dans l'école de ma fille, où on avait supprimé une classe, ce qui, à terme, menaçait 5 classes et donc l'école elle-même, le fait qu'il y ait eu mobilisation des parents, occupation de l'école, pétition et pétition largement signée, eh bien, le résultat est là. Ce matin, au lendemain des vacances, on s'aperçoit que le rectorat a dû revenir sur la décision de suppression d'une classe. Alors, une classe, c'est une classe, et il y a bien d'autres choses à remettre en cause, mais quand même, je crois, moi, personnellement, à la mobilisation.
Bernard Cassel.
Oui, parmi les dernières mesures qui témoignent du culot mais extraordinaire de ce gouvernement, il y a les chiffres du chômage. Au moment où, en catimini, en douce, on raille 180 000 personnes du registre de la NPE, donc ils sont toujours chômeurs, ces 180 000, mais ils n'existent plus comme chômeurs, eh bien on annonce une baisse du chômage. Et le Premier ministre, avec une impudence totale, a revendiqué ça. Et à la...
C'est vraiment ubuesque, là, on est. Oui, ça, c'est un mine dada.
Oui, mais je pense qu'il... Il est dans un rôle, à la limite, presque de bouffon, qui peut, comme toujours les bouffons peuvent dire des choses énormes sans choquer. Ajoutons que nous parlons de précarité, mais cette précarité n'existe que pour certaines catégories sociales, très nombreuses, mais en aucune manière pour les monsieur maires et compagnie, qui, eux, se sont dotés de parachutes en or. Dès lors que un grand patron est vidé pour incompétence ou pour fusion-acquisition, eh bien, il se retrouve avec des pactoles de sortie de plusieurs millions d'euros. Et on a vu qu'à un moment où les entreprises, notamment françaises, étaient pour certaines en perdition, eh bien, les patrons se sont eux-mêmes augmentés, Martine cite le chiffre, entre 2000 et 2002, une augmentation de salaire de 84%, pour les patrons des 40 plus grandes entreprises françaises du CAC 40. Au CAC 40, on a fait plus 82% d'augmentation de salaire. Voilà quelques chiffres qui en disent long sur tout le reste.
Serge Alimi.
Oui, Bernard évoquait une certaine impudence. Il faut souligner un point, c'est qu'avant, on essayait de maintenir une certaine distinction entre le domaine de l'État et le domaine de l'entreprise et celui du patronat. Avec la désignation de Francis Maire comme ministre de l'économie et des finances, cette distinction a volé en éclats, puisqu'il s'agit de mettre à la tête de l'économie française quelqu'un qui est un ancien dirigeant du MEDEF, qui a été PDG d'Arcelor, et qui, lorsqu'il était PDG d'Arcelor, s'est arrangé pour que son entreprise transfère son siège social dans un paradis fiscal.
Donc moi, c'est Benoît, on est de droit au logement. Donc on va vous dire vite fait ce que
que c'est comme association. Donc on existe depuis 1990 et on est une association qui organise la lutte des familles sans logis ou des familles mal logées pour qu'elles puissent gagner leur propre relogement, c'est-à-dire organiser des luttes en direction des pouvoirs publics, des mairies, de l'État, qui ne relogent pas les gens et qui maintiennent des centaines de milliers de familles, 3,5 millions de personnes en France, dans des situations dramatiques de mal logement ou dans des situations carrément de familles dans la rue. Pour nous, tous les moyens de la lutte non violente sont bons. De la manifestation traditionnelle à la réquisition de logements vacants, parce qu'on trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, il y a encore dans l'un des pays les plus riches du monde des gens qui vivent dans la rue, des gens qui crèvent dans des taudis.
Avec une tête de quiconque, il apporte les rues d'Angers. Et si vous le croisez, vous ne penseriez peut-être pas la même chose que moi. Mais chacun voit midi à sa porte, moi c'est du cœur à l'ouvrage qu'il me fredonne, qu'il me résonne. Il y a des gens qui vous raisonnent sans qu'ils s'en aperçoivent. Moi c'est mon oncle avec lequel je trinque. Ses différences et son âge mûr me racontent des histoires incroyables, on dirait des légendes. Du feu mis à l'hôtel de l'église où il n'a jamais voulu se marier. Quoi qu'ils disent bonjour des fois mon oncle pour pas dire qu'on le fait. Il y a des gens qui se chantent sans qu'ils s'en aperçoivent. Moi c'est mon oncle avec lequel je trinque. De bonne humeur malgré son décor, bah moi j'y crois à son cinéma. Quand je l'accompagne jusqu'à l'autocar direction la NPE, persuadé qu'il ne parle pas leur langue, c'est peut-être ça qui tangue. Mais ça fait tellement tempête qu'il essuie que finalement bah c'est d'autres choses la vie. Il y a des gens qui sont beaux sans qu'ils s'en aperçoivent. Moi c'est mon oncle avec lequel je trinque. Avec mon oncle Michel.
Alors on va célébrer un anniversaire qui est celui du programme du CNR. On a oublié ce que c'était que ce CNR, c'était le Conseil National de la Résistance. C'est ce programme à 60 ans et Bernard Cassen attaque, va célébrer cet anniversaire de façon particulière.
Oui, le Conseil National de la Résistance, créé en 1943 et qui est présidé d'abord par Jean Moulin jusqu'à son arrestation, et ensuite par Georges Bidault, qui, on le sait, a très mal fini, a très mal tourné, puisqu'il est quelques dizaines d'années plus tard, il s'est retrouvé comme chef de l'OAS. Enfin, mais ceci n'enlève rien à l'importance de la création de ce CNR, qui regroupait des partis, des mouvements de résistance, des syndicats, de la CGT et la CFDT de l'époque, ainsi que différentes personnalités. Et en pleine guerre, ces gens-là, réunis autour du général de Gaulle, chef de la France libre, ont concocté un programme dans les conditions de la clandestinité, c'était pas très facile, et le 15 mars 1944, quelques mois donc avant la libération de la France, ce programme a été publié, a été rendu public, et il a fourni la base des grandes réformes entreprises au lendemain de la guerre par les premiers gouvernements d'après la libération. Quand on lit ce programme de 1944, on a l'impression aujourd'hui d'un brûlot gauchiste. C'est-à-dire, il serait jugé comme tel s'il était publié comme ça dans quelque journal que ce soit. On s'aperçoit que ce programme qui avait commencé à être mis en œuvre, mais qui ensuite a été systématiquement grignoté et ensuite balayé par tous les gouvernements libéraux français depuis 15 ou 20 ans, ce programme est d'une formidable actualité. Et c'est pour cela que les responsables d'attaque ont pensé qu'il fallait d'abord le resituer dans sa perspective historique et montrer en quoi il est toujours d'actualité. Et c'est l'objet d'un grand colloque qui aura lieu à Nanterre le samedi 13 et le dimanche 14. Ce programme est d'une formidable actualité quand vous voyez, par exemple, l'indépendance de la presse à l'égard de l'État et des puissances d'argent, alors qu'aujourd'hui, deux tiers ou trois quarts des médias sont aux mains de deux groupes d'armement. L'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi, on a vu ce que ça donnait dans les récents procès politiques. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, etc., des grandes banques. Tout ceci qui avait commencé à être fait a ensuite été défait et est à refaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les survivants de cette
opération... Mais enfin, ça n'a pas été défait tout de suite.
Non, ça n'a pas été défait tout de suite. Ça, ça a commencé à être défait dans le, disons, dans les 20 derniers, dans les 20 dernières années, à partir du moment...
Oui, c'est la base, là, là, ce qu'on est en train de décrire, c'est la base de ce qu'on appelait les 30 Glorieuses.
C'est le socle des 30 Glorieuses, le socle de l'état social, de l'état de bien-être, de l'état de sécurité sociale, qui, depuis une vingtaine d'années, est systématiquement mis, remis en cause, et même détruit, selon les prescriptions de l'OCDE, par les gouvernements, qu'ils se réclament de la gauche ou qu'ils se réclament de la droite. De ce point de vue, il y a une très grande continuité française, il faut bien le reconnaître, depuis environ deux décennies. Ce qui est intéressant, c'est que...
Alors que dans ce CNR, il y avait la gauche et la droite.
Il y avait la gauche et la... Absolument, oui.
C'était pas la même gauche, pas la même droite.
Il y avait une partie de la droite, non collaborationniste, non vichiste, qui en faisait partie, évidemment. C'est un mouvement d'union nationale à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les survivants de cette époque, tous les grands résistants, comme Lucie et Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Maurice Riel-Valrimont, Georges Guingouin, Philippe de Chartres, ont accueilli avec enthousiasme l'idée de célébrer ce 60e anniversaire pour lequel nul ne se bousculait, entre parenthèses. On n'a pas vu beaucoup de partis, syndicats monter au créneau avec ce programme. Donc c'est attaque, supplée en quelque sorte une carence citoyenne de ceux qui auraient dû prendre cette décision, et va confronter donc le programme de l'époque avec sa réalisation dans les années qui ont suivi et avec sa remise en cause systématique. Ça sera un appel à la résistance. Une autre résistance s'impose. Évidemment, c'est pas les mêmes. C'est pas Vichy, c'est pas Pétain, c'est pas l'occupant nazi. C'est le néolibéralisme, c'est le MEDEF. Et je pense que ce moment va être un moment d'un passage de génération entre les anciens et, on l'espère, beaucoup jeunes.
Alors, Serge Halimi a publié il y a quelques années un livre qui s'intitulait « Quand la gauche essayait ». Ça fait partie des moments, pour vous, la gauche essayait.
Oui, c'est l'un des grands moments. C'est l'un des grands moments où la gauche a essayé de faire quelque chose. D'ailleurs, elle a essayé de faire quelque chose ayant en mémoire les souvenirs de juin 36, d'un grand mouvement social, parce que la résistance, ça a été aussi un grand mouvement social. Il faut se rappeler que à l'époque, il y a 5 millions de membres à la CGT, en 1945-46 en France. Un énorme mouvement social, et la volonté de ne pas revivre les déceptions de ce qu'avait été, en définitive, le Front Populaire, avec le vote des pleins pouvoirs à Pétain par des députés élus sous l'étiquette du Front Populaire, avec la non-intervention en Espagne, et avec des réformes économiques qui, finalement, n'avaient pas été très loin. Donc vous avez, chez les résistants, à la fois de gauche, comme Bernard l'a rappelé, de droite, la volonté de mettre en place des réformes de structure qui permettront d'arracher l'État au contrôle des forces d'argent, qui a toujours été très fort en France, donc jusqu'à cette date-là. Et il faut rappeler qu'à l'époque de la résistance, même De Gaulle décrit la France comme sociale ou socialiste. Et l'un des responsables d'un parti qui est qualifié comme un parti de centre-droit à l'époque, l'UDSR, avec René Pleven et François Mitterrand, qui à l'époque était un homme de droite, qu'il est redevenu mais plusieurs décennies plus tard, l'un des responsables de ce parti, l'UDSR, déclare, et c'est une déclaration de l'époque, la déclaration de 1789 est la charte de la bourgeoisie triomphante. Elle n'a proclamé que les droits de cette bourgeoisie. Elle est maintenant ensevelie dans le passé comme la classe qui l'a portée avec elle et qui glisse aujourd'hui sur le déclin de l'évolution sociale. Aujourd'hui, nous devons proclamer les droits de la classe qui lui succède, les droits des travailleurs. Et c'est une citation très étonnante quand on pense qu'elle a été formulée par l'un des responsables de partis de centre-droit. Mais nous sommes à une époque où la droite a, pour ainsi dire, disparu, où elle se cache, où elle est entachée du soupçon de collaboration avec l'Allemagne, où elle a été très proche du régime de Vichy, donc s'ouvre la possibilité de faire des tas de choses. Cette idée un peu de la page blanche de la France qu'on va reconstruire à nouveau.
Un autre monde est possible.
Et l'une des caractéristiques formidables de cette période, c'est de voir l'afflux des jeunes dans la vie politique. Quand vous voyez l'Assemblée qui est élue en 1944, 45, 46, les assemblées constituantes et puis les assemblées législatives, vous avez une énorme proportion de gens qui ont moins de 30 ans, qui ont en quelque sorte découvert la politique dans les maquis, et qui deviennent de rechef, dirigeants de mouvements politiques, députés, maires. On pense par exemple à Chaban-Delmas, qui est devenu général à 29 ans, et qui va devenir maire. Alors après, ils vont vieillir sur pied. Ouais. Et ils vont parfois mal vieillir. Et il va pas y avoir de renouvellement de ces forces de la résistance. Mais à l'époque, il y a un énorme élan, et un élan qui impose des réformes de structure, parce qu'il sait que le moment ne durera pas indéfiniment, et qu'il faut donc mettre en place les structures nouvelles qui permettront à l'État d'être autre chose que l'ombre portée des grosses entreprises.
Dominique Vidal.
Je voudrais dire, pour aller dans le sens de Serge, que le caractère extrêmement avancé du programme du Conseil national de la résistance, il est le résultat d'un rapport de force politique extrêmement particulier. Je pense pas seulement à l'extraordinaire force du Parti communiste français à l'époque, mais il faut le dire, hein, c'est 1 million d'adhérents, 28% de l'électorat, donc ça compte, ça pèse très lourd. Mais plus largement en termes sociaux, on sort d'une guerre dans laquelle, comme l'a écrit François Mauriac, avec une formule bien connue, la classe ouvrière a été, comme classe, la seule classe fidèle à la France, profanée par l'occupant. Et je crois que, en face, une bonne partie de la bourgeoisie, pas toute la bourgeoisie, mais une bonne partie de la bourgeoisie, s'est compromise dans la collaboration avec l'occupant. Donc il y a un rapport de force politique et sociale qui est le terreau de ce programme-là, qui fait que ce programme ne peut pas être autre que cela. Malheureusement, ensuite, on rentre très vite et dans des affrontements politiques français, mais aussi dans la guerre froide, et l'ensemble de ces rapports de force se dissolvent relativement vite, et ça explique aussi la remise en cause progressive d'un certain nombre de ces avancées. On n'a pas attendu les années 80, même si les années 80 ont été un moment important de la remise en cause. Dès la fin des années 40, un certain nombre de ces acquis-là sont déjà remis en cause.
Mais que reste-t-il de ces années-là? Parce que si on a parlé, là, Serge Halimi parlait de 36, alors on va dire 36. Ah, les congés payés, etc. Qu'est-ce qui reste de ces programmes de la résistance?
Le programme de la résistance, c'est vraiment ce qui a été le plus démantelé ces 20 dernières années, avec un secteur public, un secteur nationalisé, le contrôle du crédit, les comités d'entreprise, les droits syndicaux. C'est un programme gigantesque. Le statut de la fonction publique, qu'on est en train de mettre en cause maintenant. Je dirais que ces dernières années, c'est surtout le programme de la résistance qui a été mis en cause. Bon, pas les congés payés, mais à l'époque, il faut se rappeler qu'avant 1936, il n'y avait pas de congés payés. Puis après, on est passé à 2 semaines, à 3 semaines, à 4 semaines, à 5 semaines. Tout ça, ce sont en général le produit de conquêtes sociales, de conquêtes politiques. Et je crois que effectivement, le programme de la résistance, c'est ce qui a été le plus mis en cause par la contre-révolution libérale, puisque c'était l'idée centrale, encore une fois, que l'État ne soit pas l'ombre portée des grosses entreprises, donc qui dispose des moyens d'intervention économique et sociale.
Même Bernard Cassel.
Oui, dans le programme Raffarin, il y a effectivement une remise en cause frontale. On se prépare à une remise en cause du régime de l'assurance maladie, de la sécurité sociale, qui est peut-être le point central du programme de la résistance. Et même les congés payés, Raffarin veut déjà revenir dessus avec le lundi de la Pentecôte. C'est symbolique, mais ça témoigne d'un état d'esprit. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. Ce programme, c'est l'anti programme Raffarin, il faut bien le constater, et c'est pour ça que ce colloque, je crois, peut servir de rampe de lancement pour un mouvement.
J'ajoute que comme on parlait des patrons, il faut rappeler cette anecdote assez parlante de Charles de Gaulle qui arrive à Paris et qui voit sur la piste d'atterrissage des tas de patrons se précipiter une fois que la victoire est évidemment acquise, et qui lui dit « Ah, je suis content de vous voir, je ne vous ai pas beaucoup vu à Londres, mais après tout, vous n'êtes pas en prison.
» En quoi ça a consisté précisément, c'est précipité sur ce sujet, Dominique Vidal, mais on a oublié de dire en quoi consistait pratiquement ce programme.
En particulier, en tout cas, ce qui me paraît le plus essentiel, ce sont l'ensemble des nationalisations qui ont constitué un secteur public extrêmement important. Deuxièmement, la création de la sécurité sociale. Troisièmement, le statut des fonctionnaires. Et quatrièmement, on l'oublie toujours, le droit de vote des femmes. Oui. Socialisti, 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 socialis
Bon, il y a quand même beaucoup de papiers dont on ne parle pas dans l'émission, mais qui sont quand même dans le journal. Sur l'Algérie, sur l'Irak, sur le Rwanda, sur l'Europe qui enterre le droit d'asile. 4000 morts en 10 ans aux frontières de l'Europe. Beaucoup de... Alors, le Salvador, on y a fait allusion. Alors, il y a le grand papier de Frédéric Lordon sur Moulinex, mais ça, c'était l'émission de vendredi. Un papier de Pierre Lepape sur l'édition à l'occasion du Salon du Livre. La Résistance, on en a parlé. Beaucoup d'autres papiers. Un papier formidable sur l'islam. À la télévision, telle que la télévision a raconté l'islam, le voile, c'est extraordinaire d'inculture, on va dire. Hein, et puis, un papier de Marcuse. Alors, on dit, tiens, c'est formidable, ils ont un nouveau collaborateur au monde diplomatique. Il s'agit d'un personnage connu, bien avant, qui s'appelle Herbert Marcuse et qui est un philosophe et qui, en 1971... parle d'Israël et des Juifs. Dominique Vidal.
Oui, on aime bien publier des documents dans le monde diplomatique, et vraiment ce texte de Herbert Marcuse en est un. Alors, bien sûr que tous ceux qui ont 50 ou 60 ans savent très bien qui est Marcuse. Peut-être les plus jeunes, on peut le leur rappeler en deux mots. Herbert Marcuse est un de ces intellectuels allemands d'origine juive qui ont été chassés par le nazisme et qui se sont exilés. Il y a d'ailleurs un très beau livre qui vient de sortir sur ces figures de l'exil judéo-allemand de Enzo Traverso, qui s'appelle « Pensées dispersées ». Et on retrouve Anna Arendt, on retrouve Walter Benjamin, etc. Marcuse est un de ces intellectuels-là. Et il se rend effectivement pour la première fois en Israël à l'époque, à Noël 71. C'est donc il y a plus de 30 ans. Et je rappelle qu'à l'époque... on ne parle pas des Palestiniens dans les médias français. On parle des réfugiés. Et donc, a fortiori, on ne parle pas d'État palestinien. Or, Marcuse propose, lui qui vient pour la première fois là-bas, une analyse d'une extraordinaire lucidité. D'abord, il établit bien sûr le lien entre le génocide nazi et la naissance d'Israël. Ensuite, il parle, bien avant les nouveaux historiens, de l'expulsion des Palestiniens, dont il souligne que, pour une part, il s'est bien agi d'un exode forcé. Et il dit donc que pour la naissance de l'État d'Israël, comme pour la naissance de beaucoup d'États, il s'est agi, dit-il, d'un établissement par la conquête, l'occupation et la discrimination. Et il ajoute même, l'approbation des Nations Unies ne change rien à la situation. Cet aval entérinait de facto la conquête. À partir de là, il développe une argumentation visant à considérer l'existence, la sécurité de l'État d'Israël dans ses frontières, dit-il à l'époque de 1948, comme une condition sine qua non de la paix. Et ça n'est pas qu'il soit hostile, loin de là, au retour des réfugiés palestiniens. Il trouve cette solution juste, mais en même temps, il explique, je cite, qu'elle est limitée d'avance dans la mesure où les terres arabes sont devenues des terres juives et les biens arabes des biens juifs. Voilà, c'est toujours lui qui écrit, un autre fait historique sur lequel on ne peut revenir sans commettre un nouveau tort. Et dans un débat avec des étudiants du mouvement étudiant allemand, il aura cette formule, une injustice ne peut réparer une injustice. Donc il dit qu'il faut un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Et cela ne l'amène pas à considérer que la perspective d'un État binational, d'un État judéo-arabe, soit une perspective absurde. Mais il la juge utopique. Il pense qu'il faut, dans un premier temps, que deux États coexistent, l'un à côté de l'autre, l'État palestinien à créer et l'État d'Israël. Avec le recul, c'est assez étonnant de voir cette pensée s'articuler sur une réalité que Marcuse connaissait mal, a priori, et y trouvait, je dirais, les bases mêmes sur lesquelles ensuite, bien plus tard, aussi bien le mouvement national palestinien que les forces démocratiques pacifistes israéliennes travailleront et travailleront. Et là, celles-ci travaillent encore.
Comment ça a été reçu, le papier, à l'époque ?
À l'époque, il y avait un grand débat, parce qu'évidemment, il mettait en cause l'idée essentielle pour les Palestiniens du droit au retour. Donc, il y a eu dans la presse palestinienne, notamment la presse palestinienne en Israël, toute une série d'articles critiques, mais en même temps un dialogue se crée. C'était une espèce de début de quelque chose qui deviendra plus tard un véritable dialogue entre le mouvement démocratique en Israël et le mouvement national palestinien.
Bravo.
Merci à tous les groupes qui vont suivre et qui sont là ce soir pour défendre la liberté de circulation. Merci à vous d'être là pour défendre la liberté de circulation et pour soutenir les associations qui se battent aux côtés des étrangers. Vous êtes là parce que vous avez tous appris, nous avons tous appris, que les hommes naissent libres et égaux en droit. Nous savons, nous l'avons tous appris à l'école. Mais aujourd'hui en France, nous savons qu'il y a des dizaines de milliers d'hommes et de femmes. En Europe, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui sont moins égaux que les autres. Soit des centaines d'hommes, des centaines de milliers d'hommes et de femmes auxquels on dénie le droit à la libre circulation, alors que ce droit à la libre circulation est utilisé pour les marchandises et pour les capitaux, et cela sans limite aucune.
L'imagination s'arrête là où la vie commence. Arrête, ne vis pas où tu en mourras. Imagine un champ de provisions où le doute sans doute semera foison. Nos vies coûte que coûte, nos rêves de civilisation. Civili, civila, civilisation. Si la vie, si Lisa, Lisa avait raison. C'est pas dans les chansons, ni dans l'eau de mon vin. On fera de demain les civilisations. On fera du raffi, du bruit et du patin. Et la main dans la main, on chantera dans la rue. On fera de demain ce qu'on aura bien voulu. Si c'est pas défendu de chanter dans la rue. D'ailleurs, de la vie sans nos rêves. D'ailleurs, je ne vis pas, sinon j'en mourrai. J'imagine des terres en fusion où l'on goûte à goutte des ciels à foison. Et nos vies coûte que coûte pour la révolution.
Voilà, merci à tous, merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Bernard Cassin, Serge Halimi, Dominique Vidal, Maurice Lemoine, Ignacio Ramonet et Martine Bullard. Je vous conseille tout spécialement ce papier de Martine Bullard sur le social en France, qui a le mérite d'être très très clair et concis. Technique, et les autres papiers sont excellents, hein. Technique aujourd'hui, Éric Gérard et Olivier Rieutor, assistante Anne de Giaferri, assistant musique Coyenne Guyenne, le répondeur, le numéro c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe, c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je vous rappelle, à 19h, dans quelques instants, au Zénith à Paris, grande soirée, avis de chaos social, à l'initiative des têtes-raides qu'on entendait, mais ils ne seront pas seuls, il y aura la rumeur qu'on aime beaucoup, il y aura Dominique, A, Java, le peuple de l'air, Benabar, Fabulous Troubadour qu'on a entendu, etc., etc., et une quantité d'associations, dont Gisti, Greenpeace, Ligue des droits de l'homme, Relogement, Collectif 62, etc., etc., donc à 19h dans quelques instants, au Zénith, réclame.